D'accord, merci. Donc, on va aborder un petit peu la troisième partie de l'ouvrage. Alors, vous, donc, à travers une réflexion sur ce que vous appelez l'encastrement, à savoir l'influence réciproque des pratiques de gestion du travail et de l'environnement, donc culturel, institutionnel, politique, dans lequel elles s'exercent. Vous évoquez à cet égard des comparaisons très intéressantes entre la France et l'Allemagne pour illustrer l'influence du contexte culturel et surtout peut-être institutionnel sur les conceptions du rapport salarial. Pouvez-vous revenir sur ces études et sur les apports et limites de l'analyse sociétale?
D'accord. Alors, l'analyse sociétale, d'abord, elle est extrêmement située dans le temps et dans l'espace, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'elle est le produit d'un travail qui initialement a été mené dans un laboratoire qui s'appelle le LEST, c'est-à-dire le laboratoire d'économie et de sociologie du travail, à Aix. Et c'est un travail qui a été entamé au milieu des années 70, avec une interrogation initiale qui était la comparaison des hiérarchies de salaire en France et en Allemagne. C'était ça le point de départ. Et je dirais que ce point de départ était redoublé par un constat immédiat qui faisait énigme d'une certaine manière, qui était que l'entreprise allemande paraissait plus égalitaire que l'entreprise française, c'est-à-dire que les hiérarchies salariales étaient plus écrasées en Allemagne qu'en France. Donc ça, c'est un point de départ presque élémentaire, mais qui constitue une belle énigme qu'il s'agissait de résoudre. Alors sur cette énigme-là, très vite, elle a emmené les chercheurs, et parmi ceux qui ont été leaders dans cette affaire-là, c'est ceux qui ont publié le livre qui a donné, dont j'oublie tout le temps le titre, qui a paru au PUF, c'est Politique éducative, enfin genre, bref, j'ai oublié le nom, mais enfin tout le monde le connaît. Donc c'est Marc Maurice, François Cellier et Jean-Jacques Sylvestre, hein, les trois auteurs. Au fond, dans la démarche intellectuelle qu'ils nous ont essayé d'inventer, ils renvoyaient dos à dos deux façons de voir l'entreprise, les salaires, le monde du travail, etc. Donc d'un côté, la théorie économique traditionnelle, qui était invalidée pour partie par un constat simple, c'est que en Allemagne, on s'aperçoit que les cadres constituent une population beaucoup plus rare, moins importante que dans les entreprises françaises, et pourtant moins bien rémunérées que leur équivalent français. Donc il y avait une espèce d'énigme, hein, consistait au fond, ce qui est rare n'est pas cher, hein, pour le dire de façon presque triviale, parce que moins de cadres en Allemagne est pourtant moins bien rémunérés que leur équivalent français, toutes choses égales par ailleurs. Donc, belle énigme qui posait une question de la construction monétaire de la rareté, quoi, hein, en tout cas la reconnaissance monétaire de la rareté. Donc, premier contrepoint, hein, c'était ça. Alors, il y avait aussi un autre univers intellectuel dont tente de se défaire Maurice Cellier-Sylvestre, c'est la sociologie des organisations classiques. C'est-à-dire une sociologie des organisations qui conçoit l'entreprise comme, je reprends une citation, enfin, Friedman utilisait le terme de, comment dire, de, ah bah ça y est, il m'échappe à l'instant, il utilisait le terme d'espace arrondi ou de figure arrondie, je sais pas, pour dire que l'entreprise était repliée sur elle-même dans toute une série de représentations d'entreprise, donc comme un cercle, sur lequel l'environnement externe et institutionnel n'avait aucune prise. Hein, et voilà. Et donc leur reproche, c'est de dire la sociologie des organisations résonne trop souvent comme ça, comme si l'entreprise était complètement extérieure à son environnement extérieur institutionnel, et ce que montre immédiatement la comparaison France-Allemagne, c'est que c'est pas le cas. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des spécificités aux entreprises françaises, il existe des spécificités aux entreprises allemandes. Donc c'est ça le point de départ. Alors très rapidement, pour essayer de réfléchir sur la façon de voir comment les entreprises sont encastrées institutionnellement dans les différentes sociétés, il fallait construire un concept qui est capacité à s'appliquer aussi bien à la France qu'à l'Allemagne. C'est-à-dire, si vous voulez faire comparaison, il faut qu'on puisse avoir un vecteur de comparaison, un objet qui donne prise à la comparaison. Alors, ils ont construit la notion de rapport salarial, non pas au sens de la théorie de la régulation de Boyer, Aglietta, etc., mais rapport salarial pour dire ce qui structure fondamentalement le travail, l'emploi, le rapport de travail, etc., c'est trois choses. C'est la formation des individus, donc le système éducatif. C'est d'autre part les modes de gestion en vigueur dans les entreprises, donc l'espace organisationnel. Et d'autre part, tout ce qui relève des relations de travail, donc les systèmes de relations professionnelles. Et l'intuition, qui était l'intuition forte au fond de l'analyse sociétale, c'est de dire ce qui caractérise de façon spécifique un pays par rapport à un autre, c'est la manière dont s'articulent ces trois éléments. Et c'est cette articulation entre ces trois éléments, école, entreprise, relations professionnelles, qui va permettre de parler de rapport salarial français, allemand, anglais, etc. Hein, c'est ça l'intuition. Alors, quel résultat apparaît en procédant de la sorte? Eh bien, par exemple, si je prends le cas de l'Allemagne, et on le verra en miroir au cas français à chaque fois, ce qu'ils mettent très vite en évidence, c'est que le système éducatif allemand est un système qui sélectionne a priori, à la différence du système éducatif français qui sélectionne a posteriori. Donc, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? C'est-à-dire que pendant très longtemps, les choses sont en train de bouger maintenant, mais il y a une petite poignée simplement d'élèves qui très tôt restent dans le système de formation générale, tandis que la majorité des élèves se dirige vers le système de formation professionnelle. Et donc, ce qui veut dire que il y a une forte hétérogénéité des gens qui sont dans le système de formation professionnelle. Au fond, on va retrouver des élèves de milieux populaires comme des élèves de milieux plutôt aisés. Mais en revanche, dans le système de formation générale, il y a une forte homogénéité sociale parce que, bien sûr, ce sont les classes sociales dominantes qui peuvent se permettre d'envoyer très tôt les gamins vers l'équivalent du bac qui est l'abitur. Hein. Et vous voyez que c'est exactement l'inverse dans le cas français où, à l'inverse, on a un système de formation professionnelle qui est extrêmement homogène socialement, puisque ce sont plutôt les enfants d'ouvriers, d'employés, etc., qui se dirigent très tôt vers ce système-là de formation, vers CAP, BEP, et que la voie du lycée, pendant très longtemps, accueille malgré tout des enfants d'origines diverses, et que ça les sélectionne a posteriori, parce que la sélection se fait au fur et à mesure qu'on grimpe dans le système de formation, université, grandes écoles, etc. Hein. Donc c'est la première chose qu'ils mettent en évidence. Et donc, la conséquence de cette différence de formation, c'est que on a une force du système de formation professionnelle plus importante en France qu'en Allemagne, qui va donner au statut ouvrier un statut peut-être en termes de qualification plus homogène, hein, une forme de reconnaissance du statut ouvrier beaucoup plus important, donc une qualification beaucoup beaucoup plus puissante, et notamment une qualification qui va mettre les gens qui sont enfin après en statut d'ouvrier dans les entreprises en situation d'autonomie et de polyvalence pardon, beaucoup plus forte qu'en France. Hein, ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup moins besoin de cadres dans les entreprises allemandes que dans les entreprises françaises, tout simplement parce qu'il y a une force hein, de la qualification, une puissance de l'encadrement, comment dire, du système éducatif qui donne priorité à la formation professionnelle beaucoup plus importante qu'en France. Ou la voie de l'apprentissage, comme on le sait, pendant très longtemps et encore maintenant, est avant tout une voie de la relégation. Et ça s'appuie sur comment dire, un soutien institutionnel par les chambres de commerce, par les entreprises, etc., beaucoup plus fort qu'en France. Donc, premier élément important. Ensuite, ce que montre bien l'effet sociétal, c'est que, du point de vue des entreprises, les entreprises françaises et allemandes ne sont pas organisées de la même manière. En d'autres termes, ce qui caractérise, pour le dire vite, en premier lieu les entreprises françaises, c'est la rupture entre le sommet et la base de l'entreprise. Si on veut espérer faire carrière à un haut niveau dans les entreprises françaises, il faut passer par les grandes écoles, et puis après, eh ben, on peut se permettre de passer de boîte en boîte parce qu'on a fait Polytechnique, on a fait l'ENA et on a pantouflé, etc., quoi. Alors qu'en Allemagne, c'est beaucoup plus, j'ai plus toutes les statistiques en tête, mais on a plus de chances de faire carrière dans l'entreprise lorsqu'on vient du bas et d'atteindre les sommets qu'on ne le peut en France. Hein, grosso modo, en France, si vous n'êtes pas passé par les grandes écoles et les plus grandes des grandes écoles, vous avez peu de chances d'espérer d'arriver tout en haut dans la pyramide organisationnelle. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point qui différencie la France et l'Allemagne, c'est la gestion de la mobilité. En d'autres termes, pendant très longtemps en France, le modèle type de carrière professionnelle, c'était une carrière professionnelle qui était gérée par le modèle du marché interne. On rentre dans l'entreprise et puis on grimpe tout au long de sa vie, quoi, hein. Alors qu'en Allemagne, précisément en fonction du rôle important du système de formation professionnelle et de la reconnaissance par toutes les entreprises des diplômes de formation professionnelle, c'est plutôt un marché un marché de type professionnel, c'est-à-dire qu'on fait carrière en passant d'une entreprise à l'autre et pas forcément en rentrant dans la boîte par le bas et en faisant carrière. Donc on est davantage mobile d'une entreprise à l'autre et ça c'est possible parce qu'il y a une reconnaissance des diplômes de formation professionnelle qui sont beaucoup plus forts en Allemagne qu'en France, hein. Donc ça c'est deuxième point majeur. Et puis ce que souligne bien l'étude initiale, c'est que en France, il y a quand même un poids de la logique bureaucratique, hein, qui est beaucoup plus fort dans les entreprises françaises que dans les entreprises allemandes, avec une attention au statut, à la vision du travail, à la logique du formel, au poids des diplômes qui est beaucoup plus fort en France qu'en Allemagne. Alors tout ça se conjugue avec la troisième composante du rapport salarial, qui sont les relations professionnelles. C'est un mystère pour personne pendant très longtemps, c'est encore le cas maintenant, même s'ils se sont beaucoup affaiblis, les syndicats allemands sont beaucoup plus forts que les syndicats français, hein. Aujourd'hui, le taux de syndicalisation en Allemagne, c'est 20%, hein. Au moment où Célier Sylvestre et Maurice avaient fait leur étude, c'était aux alentours de 30-35%, si ma mémoire est bonne. Mais quoi qu'il en soit, on a un mouvement syndical beaucoup plus fort, beaucoup plus uni, et capable de peser davantage, peut-être, dans la négociation. Alors, pour aller droit au but, ce qu'il faut dire dans la logique de l'effet sociétal, c'est que les organisations syndicales allemandes et les organisations d'employeurs allemands négocient sur un modèle qui est un modèle, pourrait-on dire, quasiment centralisé. C'est encore vrai maintenant, même si ça a un peu changé. L'idée, c'est de dire de choisir une région en Allemagne et un secteur phare, hein, qui peut être traditionnellement le secteur de la métallurgie ou le secteur de la chimie, etc. De négocier, par exemple, sur les salaires, les qualifications, les temps de travail, et puis ce qui a été négocié finalement fait tache d'huile de façon quasiment automatique dans l'ensemble des pays, dans l'ensemble des autres lenders et dans l'ensemble des autres régions, hein. Donc on a un système quasiment, comment dire, centralisé. Mais la chose importante, c'est que ce système-là a un impact très fort sur le mode de gestion des entreprises, qui fait que ce qui a été négocié au niveau de la branche, notamment les salaires, s'impose de façon forte sur les stratégies des entreprises, et il n'y a pas de grands trous conventionnels, hein, comme en France, de grands secteurs qui échappent complètement à la négociation collective. Alors ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que dans la logique du système de relations professionnelles allemand, les partenaires sociaux peuvent imposer une espèce d'homogénéisation des salaires beaucoup plus forte qu'en France. C'est-à-dire que les entreprises allemandes peuvent difficilement jouer sur la carte des différences de salaire pour se concurrencer les unes par rapport aux autres, parce que justement on a un système de relations professionnelles qui leur impose une norme salariale de façon beaucoup plus puissante, prégnante qu'en France. Donc, ne pouvant jouer sur la carte de la concurrence par les salaires, la logique c'est de jouer sur d'autres formes de concurrence entre entreprises, et là, très tôt, l'Allemagne a joué la carte de la qualité. Si on ne peut pas se différencier par les prix, on se différencie par la qualité du produit. Et pour avoir des produits de qualité, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir une main-d'œuvre de qualité. Donc des ouvriers extrêmement bien formés. Et donc on voit bien comment l'affaire se boucle avec le système éducatif qui, très tôt, hein, a mis l'accent sur la production de qualifications ouvrières avec des gens extrêmement autonomes, qualifiés, etc. Donc vous voyez, ce que mettent en évidence Maurice Célier et Sylvestre, c'est l'existence d'un minimum de cohérence entre trois composantes qui sont l'école, l'entreprise et les relations professionnelles. Et donc, la conclusion finale de leur affaire, c'est de dire que si vous voulez comprendre le travail et la vie au travail, il faut à un moment donné sortir de l'entreprise pour regarder comment est produite la qualification du travail, comment se produisent les diplômes, bref, comment se produisent les travailleurs et comment se gèrent les relations de travail. Sinon, si on a toujours le nez sur l'atelier, on ne comprend rien à la réalité du travail dans les différents pays et encore moins aux différences entre les pays, quoi. Voilà, me semble-t-il, comment on peut résumer, je crois, cette recherche qui a été une recherche extrêmement importante dans l'histoire de la sociologie du travail française, en tous les cas, pour nous aider à sortir d'une tradition qui était une tradition, pardon, de sociologie de l'atelier. Voilà. Alors, j'ajouterai pour finir que c'est un schéma qui fonctionnait bien pour les années 70-80 et y compris avant tout pour les hommes, hein. C'est-à-dire que j'exagère pas, je pense, en disant que c'était une lecture genrée du monde du travail, puisque les enquêtes ont porté, pour l'essentiel, sur des industries masculines. Et lorsqu'on regarde ce qu'ont fait d'autres collègues comme Catherine Marie, par exemple, eh bien, lorsqu'on pose les mêmes questions de hiérarchie salariale dans des secteurs qui sont des secteurs davantage féminins, on n'aboutit pas au même résultat. Hein. Donc, c'est un modèle qui date des années 70-80, qui est genré et qui évolue. Parce que, vous le savez, en France comme en Allemagne, par exemple, le système éducatif évolue. De plus en plus, par exemple, côté allemand, de plus en plus de familles envoient maintenant leurs enfants du côté de l'abitur, plutôt que les envoyer systématiquement, en formation professionnelle. De la même manière, la France a développé, au sein même de son système éducatif, toute une série de filières, hein, de formation technique, bac pro, BTS, etc., qui fait que, du point de vue éducatif, les deux systèmes ont peut-être tendance à se rapprocher plutôt que d'être opposés aussi fortement que peut le laisser croire la lecture des premiers travaux des sociologues et des économistes qui ont travaillé dans le cadre de l'effet sociétal.